D'être parmi vous aujourd'hui. Et je crois le troisième qui vous accueille au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais je le fais quand même parce que j'ai vraiment l'impression qu'il est parmi nous. Pourquoi est-ce qu'il est parmi nous? Je crois que le thème le concerne. Je me suis dit, les gens qui seront là aujourd'hui, dans un sens, ce sont des gens qui ont du courage. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, est-ce qu'à cause du temps, aussi ils ont du courage d'être dans une salle fermée quand il fait beau dehors, mais au moment où vous vous êtes inscrit, vous ne saviez pas s'il ferait vraiment beau. Mais vous vous êtes décidé de vous exposer à quelque chose. Et je pense que cette journée, d'une façon inévitable, elle réveillera des souvenirs difficiles. Elle réveillera des choses que vous aurez vécues. Et parfois, j'ai l'impression qu'il n'y a que les situations où nous vivons très proches les uns des autres. C'est que dans ces situations qu'il y a des blessures aussi profondes dans notre être. Et c'est où? C'est dans la famille et c'est dans l'Église. Mais si je parle de cela, je sais aussi que le Seigneur est ici parce qu'il a envie de guérir. Il a envie de venir en aide à notre impuissance, à nos questions. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrances dans ce domaine parmi les chrétiens? Dans mon travail, j'ai fait de la relation d'aide ou la psychothérapie, comme vous voulez, pendant 20 ans, et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes blessées dans les églises. À tous les niveaux. Des pasteurs blessés dans le contact avec leurs anciens. Des anciens blessés. Des membres blessés. Pourquoi? Je pense qu'il y a différentes raisons, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à cela et j'aimerais énumérer peut-être 4 raisons, il y en a sûrement plus, mais je crois que nous avons tous accepté et dans un sens tellement bien accepté qu'il y a un très grand défi dans l'Église de vivre ensemble. Je crois qu'il suffit de se rappeler Jean 13, 34 et 35, pour savoir de quoi il s'agit. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous devez vous aussi vous aimer les uns les autres. Jusqu'ici, ça irait encore, mais il continue. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est là le grand défi, que à travers nos relations, Jésus dit, les gens comprennent ou ne comprennent pas. Et c'est un défi tellement grand, et nous l'avons accepté. Ce qui m'a touché quand j'ai relu ce texte, c'est que Jésus s'adresse à ses disciples dans le verset 33, il dit, « Mais petits-enfants. » J'ai regardé quels sont les textes où il s'adresse à ses disciples en disant « mes petits-enfants ». Ce sont des textes toujours où il sait qu'il leur lance un très grand défi. Et qu'en fait, en face de lui, il n'a pas des héros, mais des petits-enfants. J'ai l'impression que nous nous donnons tellement de peine à vouloir être à la hauteur de ce défi. Et je dirais même, nous nous donnons trop de peine. Et peut-être faussement de la peine. Pourquoi échouons-nous? La communion fraternelle crée une très grande proximité. Une grande proximité crée chez chacun une grande vulnérabilité. Une grande vulnérabilité amène, à travers des choses parfois si petites, de grandes blessures. Les grandes blessures amènent beaucoup de souffrance. C'est ça. Il y a un autre point qui m'a frappé, je crois que ce sont nos attentes qui sont en dehors de la réalité. Jean-Jacques l'a déjà mentionné, il a dit, nous avons toujours et nous croyons encore, je ne sais pas pourquoi l'humanité persiste à croire cette chose complètement illusoire, que si on sait, on arrive à le faire. C'est pas vrai. Notre savoir qu'il faudrait le faire met une exigence, mais très loin, elle ne nous aide pas du tout à arriver à le faire. Nous avons des attentes non réalistes face à nous-mêmes. Avec un peu de bonne volonté, tu arriveras à aimer chacun. Et nous avons des fausses attentes envers les autres, en se disant, en tant que chrétien, ils vont comprendre que ils ne comprennent pas plus que les autres qui ne sont pas chrétiens. Je crois qu'il y a une fausse compréhension aussi de l'amour. Nous définissons l'amour très souvent comme quelque chose où il y aurait des émotions, que des émotions positives. Il y aurait une harmonie. Il y aurait l'absence de conflit, l'absence de combat. Et mes amis, c'est en dehors de la réalité. Et quand on regarde l'amour de Dieu, quand on regarde l'amour comme Jésus l'a vécu, nous savons que ce qu'il a vécu, c'était vraiment l'amour. Hein? Qu'est-ce qu'il a pu dire aux gens? Comment est-ce qu'elle a pu réagir? Il n'a vraiment pas cherché l'harmonie. Il a vécu des conflits énormes. Pas seulement avec les gens qui étaient les ennemis, aussi avec les disciples. Pouvoir dire à un de ses disciples, « Arrière-moi, Satan !» Ça va loin. C'est pas doux. Et un quatrième point, je crois que nous manquons de connaissances sur ce que c'est que l'être humain et sur ce que c'est qu'une relation. Et nous manquons parfois de pistes pratiques, comment vivre nos relations. Alors j'ai un but pour cette journée. Un but que nous puissions ensemble mieux comprendre. Donc, quelque chose qui est lié aussi à notre connaissance. Mais le but aussi que nous puissions prendre conscience de notre part personnelle dans les relations. J'aimerais vous donner quelques pistes. Et j'ai l'attente que le Seigneur soit là, surtout dans un moment de culte que nous aurons cet après-midi. Comme un Seigneur qui pardonne, qui guérit, qui veut la réconciliation, qui vous donnera des mandats à exécuter. Et en préparant, j'ai eu l'impression que le Seigneur voudrait que, à travers cette journée, vos églises soient bénies. Vos églises soient bénies. Pas seulement vous personnellement. D'abord, premièrement, mais aussi vos églises. Et j'aimerais essayer de vous encourager à la fin d'amener ces choses qui vous ont touché, qui vous auront touché aujourd'hui, de les amener dans vos églises, dans vos conseils, d'en parler avec les autres. Parce que je crois que nous avons un thème qui est vraiment important. Le but à quoi nous pourrions arriver, je peux le montrer à travers un transparent très simple. J'aime beaucoup le terme qui est choisi ici dans Romains 15, 7, accueillir les autres. Je crois que dans d'autres traductions, on voit accepter. Et j'aime bien aussi la démarche de ce qui est exprimé. Ça commence par le fait d'être accueillis nous-mêmes. par Jésus-Christ. Et le fait d'avoir été accueillis nous-mêmes jette comme la base sur laquelle nous pouvons apprendre, je dis volontiers apprendre, à accueillir les autres. Et je crois que cette démarche est intéressante parce qu'elle dit « comme nous avons été accueillis ». Comme. De la même manière, avec la même mesure. Et c'est quelque chose que j'ai souvent utilisé dans mon travail de dire, c'est encore, je crois même, quand c'était hier, dans un entretien avec un couple que nous avons vu, ma femme et moi, Fleurette et moi. Comment est-ce que vous avez été accueillis? Comment le Seigneur vous accepte-t-il? Quelles sont ses conditions? Est-ce qu'il y en a? Ou est-ce qu'il n'y a pas de conditions? Mais est-ce que s'il vous accueille tellement, d'une façon inconditionnelle, est-ce que ça veut dire qu'il veut que vous restiez tel que vous êtes? Ou est-ce qu'il arrive à lier l'espérance à l'acceptation inconditionnelle? Comme. L'ordre, c'est vraiment un ordre, un commandement, un mandat. Et le but, j'aime beaucoup le but. Le but n'est pas le bien-être. Le but n'est pas le bonheur. Le but n'est pas l'harmonie. Le but d'accueillir les autres, c'est la gloire de Dieu. Un premier volet pour comprendre un peu mieux l'homme, un être relationnel, nous avons dit. Le premier volet, qu'est-ce que c'est qu'une relation? Pour le comprendre, il faut vraiment commencer au début. Je crois qu'il faut comprendre ce que c'est que l'homme. Et ce sont des choses très bien connues que je vous dis. Ce n'est pas des choses nouvelles. Dans Genèse 1, 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'est-ce que cela veut dire? Si nous nous approprions cette réalité, cette vérité, que nous avons été créés, j'ai été créé à la ressemblance de Dieu. Je pense qu'il est évident pour chacun de nous, cette ressemblance n'est pas d'abord une ressemblance extérieure, c'est une ressemblance intérieure. Il nous a fait comme il est, dans le sens, il a voulu que nous ayons la même nature. Maintenant, il y a un problème dans cela. Dieu est sans limite. Sans limite dans le temps, sans limite dans l'espace, il est sans limite. Nous, nous avons des limites. Et là, pour revenir à cette question, qu'est-ce que l'homme? Il faut voir que là, il y a une grande différence, et c'est le problème de notre thème. Dieu est amour. Il est amour. Et nous, nous avons un peu plus ou un peu moins. Vous voyez la différence? C'est capital. Du fait que Dieu est illimité, il peut être amour. Et du fait que nous, nous sommes limités, dans tout notre être, nous avons de l'amour. Et l'amour, dans un sens, ne fait plus partie de notre nature comme telle. Nous verrons cela encore un petit peu plus loin. Mais je crois que le point essentiel de cette ressemblance est que Dieu nous a créés comme des êtres relationnels. Si quelqu'un est amour, il a envie d'entrer en contact avec quelqu'un d'autre. Il veut être en relation. Dieu est un être relationnel. Il a toujours aspiré à la relation. La relation entre le Père et le Fils. La relation entre le Créateur et ses créatures. Alors, il nous a créés comme des êtres relationnels. Je pense qu'il y a certains qui auront déjà vu ce petit dessin, mais il faut quand même le montrer ici. Qu'est-ce que c'est qu'un être relationnel? Le fait que nous soyons un être relationnel met sur nous deux choses. D'une part, une capacité, nous pouvons être en relation. Et d'autre part, une obligation. Nous sommes obligés de vivre dans des relations. Si nous sommes des êtres relationnels, nous ne pouvons plus vivre en dehors des relations. Tout ce que nous faisons quand il y a d'autres gens autour de nous exprime quelque chose de notre relation avec eux. Quand je me retire dans un coin, dans une salle où il y a beaucoup de monde, ça exprime « je ne veux pas être en relation avec vous ». Tout ce que nous faisons devient une communication dans un sens. C'est pour cette raison que le psychologue Václavik a formulé cet axiome très bien connu, l'homme ne peut pas ne pas communiquer. Il y a des situations où on aimerait ne pas être en relation, où on va mal, où on aurait envie d'être seul, et on n'y arrive pas. Même dans des trains ou dans des lieux publics, on est là. On aimerait peut-être être vraiment pour nous. J'ai vécu de ces moments-là, je pense à Paris, ou dans d'autres grandes villes, une solitude intérieure, mais il y a toujours du monde, toujours du monde. Ils ne veulent peut-être rien avoir à faire avec moi, mais ils sont là. Et ils me communiquent, tu ne nous intéresses pas. Il y a toujours cette relation. Et pour finir, quand on y réfléchit, c'est vrai, les relations sont le centre de toute notre vie. Tout tourne autour des relations. C'est dans les relations que nous vivons les moments les plus précieux, les plus heureux. Avec des amis, dans le couple, avec des enfants. Et les relations, c'est l'endroit où nous avons le plus souffert, été blessés. Solitude, être attaqué, être incompris, toutes ces choses. Le lieu de la plus grande joie est le lieu de la plus grande souffrance. Je pense à une femme qui, dans le premier entretien, m'a dit, elle était d'ailleurs femme de pasteur, je pense qu'elle avait à peu près 45 ans à ce moment-là, elle m'a dit, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent dans ma vie, c'était pour être aimé. Incroyable. Quelle souffrance. Être relationnel, dans cet être relationnel, nous sommes obligés et nous avons la chance, toujours les deux choses ensemble, de vivre dans trois relations. Et chaque être humain, chrétien ou non, vit dans les trois dimensions relationnelles. Une dimension avec quelque chose qui est plus grand que ma vie personnelle, pour nous Dieu, pour les gens qui ne croient pas, il y a quelque chose à la place. Quand on veut travailler avec des gens, dans la relation d'aide, il faut comprendre ce qu'il y a à la place de Dieu dans leur vie. Parce qu'il y a quelque chose qui les régit. Il y a quelque chose qui est si important pour eux, que ça a une grande influence sur leur vie. Nous vivons tous, nous sommes obligés, nous en avons déjà parlé, à vivre dans des relations avec autrui et nous avons une relation avec nous-mêmes. Vous voyez comme j'ai dessiné cela. Je le considère comme un système de tuyaux ou de conduite. Et qu'il y ait cette boucle exprime quelque chose de très intéressant. L'amour de Dieu qui aimerait bien nous traverser et atteindre les autres. C'est ça le but de Dieu. L'amour de Dieu veut s'incarner. Il y a une chose qui est toujours sûre quand vous rencontrez quelqu'un. C'est hier encore que j'ai rencontré quelqu'un pour préparer un week-end de formation continue pour des collaborateurs. C'était quelqu'un qui n'est pas croyant. Et en parlant ensemble, je suis arrivé à dire, et ça m'a frappé de voir ce qu'il y a eu dans son regard à ce moment-là. Je ne l'ai pas dit pour vouloir lui donner un message quelconque, mais j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui l'atteignait. J'ai dit, vous savez, pour moi, il y a une chose qui est certaine. Le plus grand besoin de la personne que j'ai en face est toujours d'être aimé. Elle m'a regardé. Et c'est comme si elle disait, c'est vrai, vous avez raison, moi aussi, j'ai besoin d'être aimé. Et c'est vrai aussi pour vous, maintenant. Et c'est vrai pour moi quand vous me regardez. Nous avons besoin d'être aimés. Mais il y a ce but de Dieu qui était le but initial, que son amour puisse atteindre les autres à travers nous. Mais vous voyez, il faut pouvoir, cet amour doit pouvoir nous traverser. Je pense qu'il est évident que le texte dans Matthieu 22, que vous connaissez tous, quel est le plus grand commandement, il parle exactement de ces trois dimensions. Aimer Dieu, aimer les autres, comme soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire comme ? Je suis arrivé à la conclusion, je ne sais pas si elle est correcte au point de vue théologique, elle est correcte, je crois, au sens psychologique en tout cas. On ne peut pas attendre plus d'amour pour les autres de quelqu'un que ce qu'il a comme amour pour lui-même. Quand vous regardez le système, vous comprenez très bien, c'est la partie la plus étroite dans le système qui définit ce qui peut sortir de l'autre côté. C'est clair. L'homme a été créé comme cet être relationnel. Et je crois que le but, vraiment le but de Dieu aussi, pour l'œuvre de Jésus-Christ, le but de la rédemption est que l'homme redevienne capable d'être aimé, de se laisser aimer et de pouvoir aimer d'autres. Pourquoi redevienne capable? La chute est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans mon travail. La chute est la plus grande catastrophe qui ait existé depuis la création. Toutes ces relations, dans les trois dimensions, toutes les relations se sont brisées. À partir de la chute, l'homme devient l'ennemi de l'homme. L'homme commence à avoir peur de Dieu. L'homme se cache. La confiance se perd. On doit mettre des habits. Qu'est-ce que ça veut dire, des habits? Il y a comme une valeur de parabole dans cela. L'homme a besoin de se protéger contre l'autre. Toutes nos difficultés commencent au moment de la chute. Et le but de la rédemption, c'est bien clairement établi pour nous, c'est sûr, c'est de surmonter cette catastrophe. Et comment Dieu l'a fait ? Nouvelle création. Et je crois que dans cette nouvelle création, il a voulu nous rendre cette capacité de nous laisser aimer, de pouvoir être aimé et d'aimer d'autres. Nous savons que ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous reste partiel aussi longtemps que nous vivons sur cette terre. Et j'ai l'impression que nous devons apprendre à vivre avec cette réalité que ce rachat, que cette nouvelle création, elle est bien là. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui de la prendre au sérieux. Mais elle reste aussi dans un sens, elle reste partielle. Comment est-ce que nous pouvons arriver à atteindre ce but que le Seigneur nous propose, ce but d'être rétabli dans notre capacité d'aimer. J'aimerais mentionner un peu quelques points. Et un premier point, c'est vraiment de prendre au sérieux ce que la parole dit. Et j'aimerais vous rappeler un texte, Romains 5, 5. L'amour de Dieu est versé dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. J'aimerais insister sur le fait que l'amour de Dieu a été versé dans le cœur de chacun ici parmi nous. Parfois j'ai l'impression que nous ne prenons pas au sérieux cette réalité. Et les gens disent, mais comment est-ce que je peux faire l'expérience de l'amour de Dieu? Je crois qu'il y a une autre question qu'il faudrait se poser. Comment est-ce que je peux faire pour faire l'expérience de ce qui a été versé dans mon cœur? Est-ce que mon cœur a assez de place pour cet amour ou est-ce que mon cœur est rempli de tellement d'autres choses que cet amour n'a même pas de place? Le problème n'est pas que l'amour de Dieu ne serait pas dans notre cœur. Notre problème est souvent que nous ne prenons pas au sérieux. Qu'est-ce que ça voudrait dire prendre au sérieux? Ça voudrait dire de dire « Seigneur, merci pour cet amour. J'aimerais vraiment le vivre aussi au niveau émotionnel. Mais je le reçois et je dis « Oui, tu as raison, tu l'as versé dans mon cœur, mais j'aimerais en faire l'expérience très concrète. Je veux me sentir aimé par toi. Viens à mon aide. » Un autre point qui va dans la même direction, c'est la nouvelle création que j'ai déjà mentionnée. Ça m'a frappé que dans Philippiens 4, 5, je vais vous le lire dans la traduction en français courant, « Que votre bonté soit évidente aux yeux de tous. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en moi, il y a de la part de Dieu un dépôt de bonté. Hein? On rappelle un entretien avec un couple. On a parlé avec ceux-là et j'ai demandé à la femme, parce qu'elle a beaucoup de reproches à faire à son mari, souvent. Je lui ai demandé, mais ce dépôt, cette gentillesse pour votre mari, elle serait là? Elle a été très honnête. Elle a dit oui, elle serait là. Pourquoi vous ne la lui montrez pas? Je ne veux pas. Vous comprenez? La réalité, elle est là. Mes amis, prenez au sérieux, il y a de la bonté en vous. Ce n'est pas quelque chose pourquoi vous aurez besoin de demander. Il suffirait de la laisser sortir. C'est ça la réalité. Il y a un autre élément qui me semble très important par rapport à ce qui est déjà là en nous à travers la nouvelle nature et à travers l'offre du salut. Un autre petit dessin. C'est en allemand, mais vous arrivez à saisir. Dieu a un vestiaire. J'ai eu l'impression que plus tard, quand je serai une fois devant le Seigneur ne me demandera pas « Pourquoi n'as-tu pas eu plus d'amour ?» Il me demandera « Pourquoi n'es-tu pas venu chercher l'amour ?» Parce que dans Colossiens, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Dans Colossiens 3, 14, il est dit « Par-dessus, revêtez !» Par-dessus tout, revêtez l'amour. Je me suis dit, revêtir, ah bon? Mes habits, je ne les ai pas faits moi-même. Je ne les ai pas fabriqués moi-même. Est-ce qu'il y aurait un vestiaire où on peut chercher l'amour quand nous en manquons? J'ai fait l'expérience, on peut. Pour le travail de relation d'aide, on est obligé d'aimer 5, 6, 7 personnes par jour. Et toujours parfaitement. Comment faire? Je suis limité, j'ai dit, je suis limité. J'ai compris qu'on pouvait aller chercher l'amour. Ce que nous revêtons n'est pas notre amour, c'est l'amour de Dieu pour cette personne. C'est ça que nous pouvons revêtir. Et j'ai fait l'expérience, si on le fait fidèlement, sous ce manteau de l'amour de Dieu, se réveille notre amour personnel, parce que le Seigneur a maintenu à l'être humain, à travers la chute, une capacité bien réduite, mais quand même une possibilité de vraiment aimer. Il y a comme quelque chose qui peut se réveiller en nous. À la longue, j'avais plus besoin d'aller chercher cet amour de Dieu. Il y avait quelque chose qui s'était réveillé en moi face à ces personnes. Mais il y a tous les autres, hein. Il y a l'homme nouveau, il y a Jésus-Christ qu'on peut revertir, il y a la patience, il y a la bienveillance, il y a l'humilité, il y a la gentillesse, la miséricorde, il y a tout ça. Allez chercher. Jacques. Si Jacques avait été suisse, il aurait dit, vous n'avez pas parce que vous ne vous donnez pas de la peine. Mais bibliquement, c'est pas en se donnant de la peine qu'on reçoit, c'est en demandant. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Il y a l'offre qui est là. Il y a un dernier élément qui me tient à cœur pour montrer que Dieu a envie de nous donner, c'est l'Esprit Saint qui est en nous. Parce que l'Esprit a envie de produire son fruit en nous. Là, je me rappelle toujours un prédicateur qui était dans une rencontre, on a été une seule fois, un prédicateur d'origine allemande, vivant au Canada, il avait prédication un peu curieuse, mais il y a une phrase qui m'est restée. Il a parlé du fruit. Il a dit, j'ai regardé beaucoup d'arbres et j'ai jamais vu un arbre qui se donnait de la peine. Hein? Comment est-ce que un arbre produit son fruit? Il lui faut deux choses, de l'eau et la lumière. Nous pouvons être enraciné, psaume 1, à cet endroit, c'est notre choix, d'être enraciné à cet endroit où il y a l'eau et la lumière. Et après, comment se produit le fruit? Il faut laisser la place à l'arbre. Mais je crois qu'on peut vraiment inviter l'Esprit dire, s'il te plaît, produis donc fruit en moi. Ce fruit, qui est un seul fruit, est l'amour. J'aimerais seulement faire une remarque. Le dernier mot, la dernière facette de ce fruit de l'amour, vous savez ce que c'est? La maîtrise de soi. Pour pouvoir aimer, il faut connaître, savoir ce que c'est que la maîtrise de soi. D'ailleurs, si vous prenez Galates 5, 22, vous verrez, on pourrait vraiment dire, le fruit de l'esprit est amour, et puis vous pourrez ouvrir une parenthèse et dire, toutes ces autres choses, la patience, la paix, toutes ces autres choses, ce sont que des facettes de l'amour. C'est tout. J'aimerais tirer une première conclusion à la fin de cette première partie. Dieu nous invite, et je crois que cette journée a vraiment ce but, à ce que nous apprenions à grandir, à découvrir ce que c'est que l'amour indépendant. Et j'aimerais encore vous dire ce que c'est que l'amour indépendant. L'amour de Dieu est un amour indépendant. Indépendant de quoi? L'amour agapé est cet amour indépendant. Indépendant de quoi? Toute la question la plus fondamentale est quelle est la raison pour notre amour? Si dans le travail avec des couples, un mari me dit « J'aime beaucoup ma femme parce qu'elle me fait de si bons repas. » J'aurais envie, je ne le ferais pas, la maîtrise de soi. Mais j'aurais envie de dire « Monsieur, vous êtes un égoïste. » Ça, c'est pas de l'amour. C'est un amour très intéressé. C'est-à-dire, est-ce que la raison pourquoi nous aimons est dans le vis-à-vis, ou est-ce que cette raison pourquoi nous aimons se trouve dans notre cœur? C'est ça la grande question. L'amour agapé est amour indépendant dans ce sens-là que la raison pour cet amour se trouve uniquement dans le cœur de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il m'aime? Parce qu'il veut aimer. Son amour n'est pas lié à mon comportement. Son amour est indépendant de ce que je fais ou je ne fais pas. Et c'est cet amour-là que nous devons apprendre, développer dans nos relations. Cet amour indépendant. Ça ne nous permettra plus de dire « Je ne peux plus l'aimer parce que ». Comme nous ne dirons plus « Je l'aime parce que », il ne faudra plus non plus pouvoir dire « Je ne l'aime plus parce que ». C'est seulement cet amour-là qui est l'amour qui couvre une multitude de péchés. C'est cet amour-là qui cherche l'autre et qui supporte d'être rejeté. C'est pour aimer de cette façon-là, cet amour indépendant, il faut avoir beaucoup de courage. Et il faut être d'accord d'être blessé. C'est cet amour-là qui a coûté la vie à Jésus-Christ. C'est un amour dangereux. C'est un amour où pour le vivre, il faut devenir fort. Parce qu'on s'expose en aimant de cette façon-là. Voilà. Nous reprendrons après une pause avec le prochain thème qui sera gérer les conflits.